Qu'est-ce qu'on doit faire quand des gens dans l'Église sont dans le besoin, matériellement? Est-ce qu'il est du ressort de l'Église de subvenir à leurs besoins, ou bien est-ce que cela ne nous regarde pas? À observer ce qui se fait au niveau de ce qu'on appelle en général l'Église chrétienne, au sens vraiment bien large, Église chrétienne, j'ai l'impression qu'on oscille entre deux tendances, le social et le spectacle. Je m'explique. Le christianisme social, c'est le christianisme qui estime qu'il est de notre responsabilité en tant que chrétiens de secourir les nécessiteux autant que possible et en aussi grand nombre que possible, d'accord ? Que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église. Et dans ce cas, la charité chrétienne est bien présente, tout du moins au niveau institutionnel, mais bien souvent, c'est la proclamation de l'Évangile et la piété personnelle qui passent au second plan, voire qui disparaissent parfois. De l'autre côté, le christianisme que j'ai appelé le christianisme spectacle, c'est le christianisme qui estime qu'il est de la responsabilité de l'Église d'organiser les meilleurs cultes possibles, les meilleures réunions possibles, avec les meilleurs messages possibles, la meilleure musique possible, dans les meilleurs locaux possibles pour que les gens qui viennent puissent passer le meilleur moment possible. Dans ce cas, la proclamation de l'Évangile, elle est bien présente, tout du moins au niveau institutionnel ou organisationnel, mais bien souvent c'est la charité justement et les relations fraternelles qui passent au second plan, voire qui disparaissent. Alors qu'est-ce qu'il en pense l'apôtre Paul ? On a déjà vu jusqu'ici, à travers l'étude de cet épître, que pour Paul, le fait de prêcher et d'enseigner fidèlement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, devait constituer la priorité absolue de l'Église. En même temps, pour Paul, le secours matériel des gens dans l'Église, qui sont dans le besoin, c'est bel et bien une de ses préoccupations, comme on l'a vu d'ailleurs quand on a étudié le passage, chapitre 3, où il a parlé du rôle des diacres, ces personnes dans l'Église qui ont une fonction spéciale, qui est le service matériel et le secours matériel dans le cadre de l'Église. Donc c'est bel et bien une préoccupation de Paul. Et ce souci que Paul a des nécessiteux, on va l'observer de nouveau dans le chapitre qu'on va lire dans quelques instants. Enfin, on ne va pas lire tout le chapitre, en tout cas dans le chapitre qu'on aborde ce soir, le chapitre 5. Et dans ce chapitre, Paul va parler assez longuement de la question des veuves. Et ça, c'était un problème important, enfin une réalité importante à l'époque où écrit Paul. Pour l'Église, il y avait beaucoup de veuves. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, ce passage, en fait, est relativement difficile à comprendre dans le détail. Notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas concernant le contexte particulier de l'Église où Timothée est pasteur, à savoir l'Église d'Éphèse. Il ressort néanmoins du passage qu'on est sur le point de lire, non seulement, comme on va le voir, une vision générale, mais aussi certaines instructions claires concernant le secours matériel dans le cadre de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand des gens dans l'Église sont dans le besoin matériellement ? Eh bien, l'idée principale qu'on va voir dans ce texte, je l'espère, c'est que la solidarité est censée être une caractéristique de l'Église chrétienne dont on ne doit cependant pas abuser. La solidarité est censée être une caractéristique de l'Église chrétienne dont on ne doit cependant pas abuser. C'est ce qu'on va voir cet après-midi. Lisons le texte, 1 Timothée, chapitre 5, et versets 1 à 8. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves, les vraies veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Celle qui, vraie veuve, est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Voilà ce que tu dois recommander, afin qu'elle soit irréprochable. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Je vous invite à prier avant de continuer. Nous te remercions encore une fois Père céleste, pour ta parole. Tu as daigné te faire connaître à nous. Tu as daigné révéler tes voies. Et au moment d'aborder ce texte, au moment de l'étudier, nous t'implorons, Seigneur, pour que tu nous accordes le secours de l'Esprit Saint, afin qu'il conduise nos pensées et nos réflexions, afin que nous puissions retenir tout ce qui vient de toi et oublier le plus vite possible tout ce qui serait contraire à ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La solidarité est censée être une caractéristique de l'Église chrétienne dont il ne faut cependant pas abuser. Premièrement, et vous avez le plan de ce message à l'intérieur du bulletin, avec les points principaux. Premièrement, la solidarité matérielle est une obligation dans la famille de Dieu. Regardez quel est le fil de la pensée de Paul au début de ce chapitre. Il dit à Timothée d'exhorter les membres de son Église comme s'ils étaient les membres de sa propre famille. D'accord ? Les vieillards comme si c'était ton père. Les dames âgées, comme si c'était ta mère, etc., etc. Et immédiatement après, il y a un ordre. On a l'impression que Paul passe du coq à l'âne, hein, pour ainsi dire. Honore les veuves. Alors, il faut savoir que le verbe honorer, ce terme honorer en grec, signifie plus que juste montrer du respect. Ça veut dire aussi pourvoir, fournir une prestation matérielle. Honorer, dans le même sens où on parle d'honoraire aujourd'hui pour un salaire, n'est-ce pas ? Honorer quelqu'un, dans le grec, ça veut dire plus que juste montrer du respect. C'est aussi pourvoir, soutenir matériellement. Alors on voit que pour Paul, la solidarité matérielle dans l'Église, on a l'impression en tout cas qu'elle découle de la nature familiale des relations qui existent au sein de l'Église. Traite les gens dans l'Église comme si c'était les membres de ta propre famille. N'oublie pas d'honorer les veuves. Effectivement, Paul avait déjà parlé de l'Église comme étant la famille ou la maisonnée de Dieu. Vous vous souvenez, chapitre 3, Paul avait dit à Timothée, « Tu sauras ainsi comment on doit se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité, n'est-ce pas ?» Dans la maison de Dieu, c'est ce terme qui veut dire le foyer, la maisonnée de Dieu. Donc, c'est un langage qui est déjà familier dans l'Épître. C'est comme si Paul disait, Timothée, en tant qu'Église, toi et les autres, vous êtes la famille de Dieu. Instruis donc les membres de ton Église, comme s'ils étaient tes parents, tes frères et tes sœurs. Et pendant que j'y pense, Timothée, ça veut aussi dire que tu dois aider ceux qui sont dans le besoin matériellement, notamment les dames qui seraient des veuves. Pour Paul, l'Église est censée être une famille, et une famille, c'est censé être solidaire. Donc, en toute logique, l'Église est censée être solidaire. Imaginons une famille, au sens strict cette fois, un foyer, qui fonctionnerait sans solidarité. Chaque membre de la famille aurait son propre frigo, qu'il serait responsable de remplir en faisant ses propres courses, avec son propre argent, gagné par ses propres moyens. Chacun vivrait dans son propre coin de la maison, d'accord ? Et on pourrait se voir, mais seulement sur rendez-vous. Et si un membre de la famille devait se retrouver sans rien à manger, il pourrait demander à emprunter de la nourriture à un autre membre de la famille, à condition de lui écrire au préalable une lettre recommandée précisant les motifs de sa demande. D'accord ? C'est un peu ridicule, c'est même très ridicule, n'est-ce pas ? On n'a pas de mal à accepter qu'il existe une solidarité matérielle entre les membres d'une même famille au sens strict, d'un même foyer, n'est-ce pas ? Mais dans le cadre de l'Église, c'est pas du tout aussi évident. Pourtant, d'après Paul, les relations dans l'Église sont censées ressembler à des relations familiales. Si l'Église est comme une famille, alors, dit Paul, on va faire preuve de respect envers les membres les plus âgés, comme on fait preuve de respect, ou en tout cas on est censé faire preuve de respect envers ses parents, envers ses grands-parents. On va se comporter de façon bienséante et pure envers les membres du sexe opposé. Et on va se montrer attentif aux besoins des membres nécessiteux, comme dans une famille. Tout ça pour dire que la solidarité matérielle, vous voyez, doit être une préoccupation de l'Église. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas en faire abstraction. C'est une obligation dans la famille de Dieu. On va voir bien sûr que Paul va être plus précis que ça, hein, et il va poser certaines conditions, parfois très explicites, mais au moins on voit que d'après Paul, l'Église d'Éphèse, l'Église de Timothée, était censée affecter une partie de son budget au secours matériel des nécessiteux. C'est clair, honore les veuves, consacre une partie des biens matériels de l'Église aux veuves. Mais avant d'en tirer trop rapidement des conclusions et de se mettre à distribuer de l'argent les yeux fermés à tous ceux qui en feraient la demande, regardons ce que Paul s'empresse d'ajouter. Deuxième point, la solidarité matérielle, c'est le devoir de la famille immédiate avant tout. C'est le devoir de la famille immédiate avant tout. Vous voyez, Paul vient de dire à Timothée qu'il fallait subvenir matériellement aux besoins des veuves. Honore les veuves. Mais, ajoute-t-il au verset suivant, si une veuve a de la famille, c'est à celle-ci de la prendre en charge. Et là, Paul va utiliser deux expressions très intéressantes pour évoquer ce devoir de la famille immédiate. Première expression, il faut apprendre d'abord à exercer la piété envers sa propre famille. Deuxième expression, il faut apprendre à payer de retour ses parents. La première expression montre que le devoir de l'Église de subvenir aux besoins des nécessiteux est précédé, donc vient après, le devoir individuel de chacun de subvenir aux besoins des membres de sa propre famille. D'accord ? Le devoir de l'Église vient après le devoir de la famille immédiate. Il est précédé par le devoir de la famille immédiate. La deuxième expression sert à renforcer cette idée, mais en l'appliquant particulièrement aux soins des personnes âgées. Il faut apprendre à payer de retour ses parents. Paul est en train de dire que dans le déroulement ordinaire d'une vie, il y a un temps, et dans le contexte de ce passage, c'est bien le soin des veuves, d'accord ? Donc dans le déroulement d'une vie, pour Paul, il y a un temps où les enfants dépendent du soin de leurs parents, et ensuite il vient un temps où ce sont les parents qui dépendent du soin de leurs enfants. Paul utilise cette expression qui est très significative hein, quand il dit « payer de retour ses parents ». Payer de retour, ça pourrait être traduit « rembourser » ou « rendre l'appareil ». On pourrait dire aujourd'hui « renvoyer l'ascenseur ». Vous connaissez cette expression ? Peut-être dans une nouvelle traduction de la Bible. Il faut apprendre à renvoyer l'ascenseur à ses parents. Imaginez que pendant plusieurs années, vous traversiez une mauvaise passe, d'accord ? Votre entreprise qui vous emploie fait faillite et vous n'arrivez pas à retrouver du travail. Votre vieille voiture cesse définitivement de fonctionner. Vous n'arrivez plus à payer les échéances de votre prêt immobilier. Bref, vous êtes dans la panade, comme on dit. Mais vous avez un ami dont les affaires marchent bien. Et lui, il va vous aider financièrement, sans rien exiger en retour, pendant toutes ces années noires, jusqu'à ce que vous soyez à flot de nouveau. Fini les ennuis financiers, après quelques années. Fini les ennuis financiers, votre situation est bien meilleure maintenant. Et le temps passe, et tiens, c'est au tour de votre ami de tout perdre et de ne pas savoir comment il va boucler les fins de mois. Il ne vous demande rien, mais vous savez que vous avez les moyens de l'aider. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que ça vous semblerait pas naturel, normal, de lui renvoyer l'ascenseur, comme on dit ? Eh bien, vis-à-vis de nos parents, on a tous en principe ce même genre de dette. Nos parents se sont occupés de nous, sans rien exiger en retour, pendant des années. Et nous étions totalement dépendants de leurs soins, n'est-ce pas ? Il n'y a pas plus dépendant qu'un nouveau-né. Et ça dure pendant plusieurs années, comme ça. Mais dans le déroulement ordinaire d'une vie, il arrive un moment où le rapport s'inverse. Et ce sont les parents qui dépendent du soin de leurs enfants. Même si nos parents ne se sont pas bien occupés de nous, c'est possible. C'est possible que nos parents se soient débarrassés de nous dans un pensionnat ou chez une nounou parce qu'ils voulaient nous voir le moins possible et s'occuper de nous le moins possible. Même si c'est le cas, cela ne veut pas dire que nous pouvons agir de même envers eux, en se débarrassant d'eux dans une maison de retraite, par exemple. Paul dit qu'exercer la piété envers notre propre famille et prendre soin de nos parents lorsqu'ils sont âgés ou dans le besoin, il dit, vous avez noté ce qui est marqué dans ce verset, cela est agréable à Dieu. Cela est agréable à Dieu. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que mettre des enfants chez la nounou ou de mettre des personnes âgées dans une maison de retraite, c'est un péché. Je ne suis pas en train de dire ça et le texte n'est pas en train de dire ça. Mais en tout cas, ce texte, je pense, nous oblige à examiner nos motivations. Il faut apprendre, dit-il, à exercer la piété envers notre propre famille et à payer de retour nos parents, car cela est agréable à Dieu. Il y a une maison de retraite protestante à Montauban, qui est plus ou moins rattachée de par l'histoire à notre union d'église. D'ailleurs, c'est le célèbre Adolphe Monod, qui était pasteur à Lyon pendant quelques années au XIXe siècle, qui a aidé à son ouverture à cette maison de retraite protestante à Montauban. Et j'ai trouvé très intéressant de voir quelles étaient les conditions d'admission dans cette maison de retraite en vigueur encore en 1918. Et je cite le règlement intérieur. Pour être admis dans cette maison comme vieillard, il faut premièrement être âgé de 60 ans et hors d'état de suffire à ses besoins par le travail. Deuxièmement, il faut être sans enfant ou, si on a des enfants, ne pouvoir compter sur une assistance suffisante de leur part. Puis après, il y a quelques autres conditions qui sont ajoutées après. Mais cette deuxième condition, mes amis, n'apparaît plus dans le règlement aujourd'hui. C'est un peu dommage, parce que je pense qu'à l'époque, on comprenait mieux ce principe biblique, que l'on voit dans ce texte notamment. La solidarité matérielle, c'est le devoir de la famille immédiate avant tout. Et ce devoir ne doit pas être usurpé par l'Église, ni imposé à l'Église. Troisièmement, la solidarité matérielle ne s'exerce pas sans discernement. Dès le verset 3, Paul a fait comprendre à Timothée que ce ne sont pas toutes les veuves dans l'Église, sans distinction, qui doivent recevoir une aide matérielle. Mais seulement, dit-il, drôle d'expression, les vraies veuves, dit-il, les vraies veuves. Au verset 5, cette expression « vraie veuve » réapparaît. Et bien que ce verset 5 et le suivant, le verset 6, soient un peu difficiles à comprendre, même assez difficile à comprendre, il semble en tout cas que Paul soit en train de donner à Timothée des éléments pour qu'il puisse faire la distinction entre les veuves qui doivent recevoir une aide matérielle de la part de l'Église et les autres, qui ne devraient pas en recevoir. La vraie veuve, d'après Paul, apparemment, c'est celle qui se retrouve vraiment isolée, qui demeure dans l'isolement, dit-il, vraiment isolée, qui n'a pas de famille. C'est celle dont l'affliction la pousse à chercher le secours et le réconfort auprès de Dieu, peut-être parce qu'il ne lui reste personne d'autre. Et d'ailleurs, ce verset est peut-être une allusion à la prophétesse Anne, qui, après 7 ans de mariage, vous vous souvenez dans l'évangile de Luc, après 7 ans de mariage, son mari meurt, et dans son affliction, elle va au temple et elle y reste pour le reste de sa vie. Et lorsque Jésus est présenté au temple, elle a 84 ans, elle est restée toutes ces années à prier et à jeûner au temple. Alors c'est peut-être une allusion à Anne. La fausse veuve, quant à elle, apparemment, d'après le verset suivant, c'est celle qui vit la perte de son mari comme une libération. Enfin débarrassée. Elle se dit qu'elle est mieux maintenant et qu'elle peut enfin commencer à vivre, pour ainsi dire, et à se faire plaisir. Et en fait, Paul dit que ce genre d'attitude reflète un sérieux problème spirituel. Son veuvage, plutôt que de la pousser en direction de Dieu, la pousse en direction d'elle-même et de comment elle peut se satisfaire elle-même. Elle vit dans les plaisirs. Et Paul dit, Paul utilise une expression ici qui serait littéralement traduite par la suivante, c'est une morte vivante. C'est une morte vivante. Elle est morte en vivant, dit-il. Morte spirituellement, bien entendu. L'idée derrière tout ça, en tout cas, c'est que Timothée doit exercer son discernement dans la distribution de l'aide matérielle, pour que l'Église ne se retrouve pas, en fin de compte, à financer un style de vie répréhensible. C'est pour ça qu'il ajoute au verset 7, « Voilà ce que tu dois recommander afin qu'elles soient irréprochables. » Les veuves qui vont recevoir l'aide matérielle, afin qu'elles soient irréprochables. Autrement dit, afin que nul reproche ne puisse être fait à l'encontre des destinataires de l'aide matérielle de l'Église. Ou encore, afin que personne ne puisse reprocher la façon dont le budget de l'Église est affecté. L'Église ne doit pas financer un style de vie répréhensible. À partir du verset 9 d'ailleurs, et on verra ça dans quelques semaines, Paul sera encore un peu plus explicite concernant les conditions sous lesquelles une veuve peut recevoir de l'aide matérielle de l'Église ou pas. Mais pour l'instant, retenons simplement ce principe. La solidarité matérielle ne s'exerce pas sans discernement, car l'Église ne doit pas se retrouver à financer un style de vie répréhensible. Notre Église, je l'espère, ne va donc jamais financer la distribution de contraceptifs sur les campus universitaires. On ne va jamais, je l'espère, donner de l'argent à quelqu'un dont l'alcoolisme ou le tabagisme ou un autre genre de toxicomanie est notoire. On ne va pas soutenir matériellement quelqu'un qui est en bonne santé mais qui refuse de se lever le matin pour aller travailler. On ne va pas le faire, Bien sûr, je suis en train de grossir le trait ici. Mais je ne peux pas vous dire combien de fois ni par combien de procédés malhonnêtes différents des gens ont sollicité de l'aide à notre Église au cours des années. Je crois qu'il y a des gens qui pensent que chrétien, c'est synonyme avec pigeon. Une fois, il y a un jeune, quand on se réunissait encore rue Masneau, il y a un jeune manifestement d'origine nord-africaine qui est venu frapper à la porte de l'église pour demander de l'argent, et je ne me rappelle plus avec quel genre de baratin, il a essayé de m'amadouer, d'accord ? Alors je lui ai demandé s'il était musulman, et il m'a dit oui. Alors je lui ai demandé pourquoi il n'allait pas demander de l'aide à ses amis ou à sa communauté musulmane. Et là, je ne vous dis pas le flot d'insultes qui est sorti de sa bouche, et dans quelle fureur il est parti. Et vous voyez, la solidarité matérielle ne s'exerce pas sans discernement. Les chrétiens ne sont pas des pigeons, et l'Église n'est pas une vache à lait, comme on dit. Quatrièmement et dernièrement, la solidarité matérielle est censée être un élément caractéristique de la foi chrétienne. On l'a déjà dit au début, la solidarité matérielle est une obligation pour la famille de Dieu du fait que l'Église est comme une famille. Mais maintenant, Paul va être tout à fait explicite en ce qui concerne le devoir des chrétiens. Et là, au verset 8, il emploie de nouveau un langage très très fort. Un chrétien qui ne se montre pas solidaire des besoins de ses proches, dit-il, vit en contradiction avec sa profession de foi. Il a renié la foi, dit-il, et il est pire qu'un infidèle. Quel langage ? Pourquoi ? Pourquoi un tel langage ? Car, nous dit Calvin, plus quelqu'un a profité en la connaissance de Dieu, moins a-t-il d'excuses. Plus quelqu'un a profité en la connaissance de Dieu, moins a-t-il d'excuses. Paul est en train de nous faire comprendre ici que ce genre de solidarité, avant tout familiale, donc, dans le cadre de du foyer, mais aussi la solidarité communautaire dans le cadre de l'Église, ce genre de solidarité est censé couler de source dans la vie d'une personne chrétienne à cause de ce que Dieu a accompli dans la vie de cette personne. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie d'un chrétien qui soit si important au point de susciter cette solidarité familiale et communautaire ? Eh bien, on raconte l'histoire d'une jeune femme née dans l'esclavage qu'on amène un jour au marché d'esclaves pour la vendre aux plus offrants. Pendant que les enchères montent, voilà qu'un homme apparemment très riche arrive au marché, accompagné d'une dizaine de jeunes hommes et de jeunes femmes noires. Il s'approche et il propose d'acheter la jeune esclave à un prix qui dépasse de loin toutes les autres offres. 100 000 pièces d'or. Personne ne peut rivaliser. Et après avoir versé l'argent, l'homme emporte sa nouvelle acquisition. Intérieurement, la jeune femme est à la fois remplie de haine à l'encontre de son nouveau propriétaire et en même temps remplie de mépris à l'encontre de cette dizaine de garçons et de filles qui semblent le servir si docilement. Et une fois qu'ils se sont éloignés de la ville, l'homme riche s'arrête, se tourne vers sa nouvelle esclave et lui dit « Va, tu es libre. » Alors la jeune femme est stupéfaite. « Comment ? Tu es libre ?» lui répète-t-il. « Je t'ai acheté à ce prix pour te rendre ta vie et ta dignité. Tu peux aller où tu veux et faire ce que tu veux. Tu es libre. » La jeune femme contemple son bienfaiteur pendant quelques instants, puis elle regarde les jeunes hommes et les jeunes femmes qui se tiennent tout souriants à ses côtés. Et alors, au milieu des larmes qui ruissellent sur son visage, elle dit à l'homme, « Si je peux aller où je veux aller avec vous. Et si je peux faire ce que je veux, alors je veux faire ce que vous faites. » Alors qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie d'un chrétien qui soit si important au point de susciter ce genre de charité, de solidarité, dans le cercle de la famille et dans le cercle de l'Église ? Eh bien, Dieu s'est préoccupé de nous, alors que nous étions dans une situation totalement désespérée, comme la jeune femme née dans l'esclavage. Dieu s'est montré incroyablement généreux envers nous, dans le but de pourvoir à nos besoins les plus profonds. Il n'a pas juste dépensé une fortune, mais il a donné sa vie par la personne de Jésus son Fils sur la croix, afin de nous libérer du poids de nos fautes, de l'esclavage du péché, comme le dit la Bible, et afin de nous offrir la vie éternelle. Dieu, vous voyez, nous a montré l'exemple ultime, l'exemple par excellence de la charité. Lui, il s'est montré solidaire de notre besoin, du besoin, des besoins de son peuple, d'être libéré du mal. Et il s'est montré infiniment généreux envers nous parce qu'il a payé le plus cher pour nous offrir le plus précieux. En prenant conscience de cela, mes amis, il est impossible de ne pas, à notre tour, nous montrer solidaires des besoins de nos proches. D'abord dans notre famille, ensuite dans l'Église. On ne peut pas prendre conscience de ce que Dieu a fait pour nous et ne pas se montrer solidaire de nos proches et de notre famille et dans l'Église. Il est impossible de ne pas avoir soin des nôtres, pour reprendre l'expression de Paul. Vous voyez, la solidarité matérielle est donc censée être un élément caractéristique de la foi chrétienne. Elle est censée couler de source dans la vie d'un chrétien. Voici comment l'apôtre Jean le dit dans sa première épître. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. « Bien-aimé, dit-il, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. » Alors pour conclure, essayons de récapituler rapidement. On a vu que l'idée principale de tout ce passage, c'était que la solidarité était censée être une caractéristique de l'Église chrétienne dont on ne devait cependant pas abuser. D'après Paul, premièrement, la solidarité matérielle est une obligation dans la famille de Dieu. Mais, en même temps, deuxièmement, la solidarité matérielle, c'est le devoir de la famille immédiate, avant tout. Troisièmement, la solidarité matérielle ne s'exerce pas sans discernement. Et enfin, quatrièmement, la solidarité matérielle est censée refléter la foi chrétienne authentique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand des gens dans l'Église sont dans le besoin matériellement? On va ni leur distribuer de l'argent les yeux fermés et faire du social. On ne va pas non plus les ignorer et faire du spectacle, mais on va tâcher de mettre en pratique ces principes bibliques, en n'oubliant pas que Dieu a toujours eu le souci des indigents, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et c'est ce qui a poussé l'apôtre Jacques à dire que la religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Amen.